tout de suite, c'est le NRV avec du live ce soir. Donc, direction la cabine technique avec Marion Guilbeault qui a veillé aux balances de Chaton, notre invitée. Marion, vous nous faites écouter quelque chose ?
Bien sûr, on va vous faire écouter quelque chose. Je suis avec Chaton et sa crinière de lion presque, pas vraiment de chaton. Chaîne en or qui brille, chemise XL blanche. On écoute quelques sons.
Quand je me mets l'anesthésie générale, c'est sans soda et sans glaçon.
J'ai l'impression que j'ai un genre de... J'ai quand même un genre de repisse quelque part. Par contre, c'est chelou que... Comment ça se fait que ça rame comme ça?
Comment ça se fait que ça rame comme ça? C'est quoi cette histoire de repisse, chaton?
Non, une repisse, c'est juste quand on a en fait du son d'ailleurs qui revient dans le micro et qui est gênant en fait à l'oreille. Mais c'était rien de grave. Hein,
ça a été réglé.
Ouais, ça a été réglé très vite par l'équipe formidable d'ici.
En fait, Benoît Lagan, il repisse un peu dans mon micro quand il gueule à côté de moi dans le NRV la suite.
Exactement. C'est
ah, c'est ça,
ça
un chaton.
Tu peux dire ça.
Je pourrais dire ça plutôt que la réverbération. Il repisse dans mon micro parce que j'ai une grande gueule.
Voilà, c'est ça. Ben nous, on va les repisser tout de suite.
Pour tout 621. Allez, c'est parti, générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous qui compte double chaque soir, ça commence à 18h, c'est comme une avant-première sur franceinter.fr et en podcast, et puis ça recommence 22h minuit à l'antenne, la version est classique comme tout le monde. Ce soir du live de la scène avec Chaton qui revient avec un nouvel album, Brune Platine, au programme Autotune et Rythme Dub, Marion Guilbeault.
Dub, autotune, poésie, brel, désenchantement, on va parler de tout ça dans quelques secondes, juste après qu'il ait joué son premier titre.
À mes côtés, Fia Ménard, le retour, seul en scène, un marathon tout en cuir, une guerrière qui construit un Parthénon en carton de ses mains. C'est Contes immoraux partie 1, Maison Mère, une performance spectaculaire qui finit en bouillie. Et ce n'est pas sans lien avec l'histoire de votre famille. Fia Ménard, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le NRV la suite ce soir, biodiversité, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Les politiques ont-ils bien entendu, Benoît Lagan ?
Ben oui, une semaine après la claque de l'ONU et ce rapport alarmant sur l'état de la biodiversité dans le monde, on refait le match, ou plutôt en bon franglais, on remake notre planète Grete Guen. Avec trois invités, l'essayiste et conférencier spécialiste des questions environnementales Frédéric Danhé, le rédacteur en chef de Reporter le quotidien de l'écologie Hervé Kempf et l'historienne des sciences et de l'environnement Valérie Chancigo.
Ce sera un NRV la suite un peu plus court que d'habitude, hein, à peu près on a 10 minutes en moins. Suite à la campagne des européennes. C'est ça. Le NRV la suite, allez. Non, pas du tout. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on ouvre tout de suite en live, Marion Guilbeault, avec Chaton.
Un chaton qui a eu plusieurs vies, hein, Laurent. Celle d'un auteur-compositeur pour chanteuse en détresse, le Je danse de Jennifer, c'était lui. Celle d'un tenant d'une chanson française.
Mais vous savez que j'ai réécouté les paroles de Je danse, et je trouve que les paroles ont un rapport très étroit avec ce qu'il peut chanter encore aujourd'hui.
Véritablement. Il va nous raconter ça.
Vraiment.
On va lui poser la question. Il a été aussi, le tenant d'une chanson française ironique sous le nom de Siméo. C'est un chaton qui s'est réinventé sous les traits d'un matou chevelu, fan de dub nonchalant, d'autotune. Ça lui permet de miauler dans les hauteurs. Il y a 2 ans, on avait adoré son dub minimal. Liste et poétique. Aujourd'hui, sans maison de disque mais toujours sans filtre, Chaton continue d'aligner les punchlines de dépressif. Alors, le Welbeck de la pop française est devenu un jeune papa. Comment appelle-t-on les bébés du chaton? Peut-on vivre dans un monde sans autotune? Et ma réponse dans toutes ces questions après un premier titre en live. C'est à vous, Chaton.
Quand je me mets l'anesthésie générale, c'est sans soda et sans glaçon. Je me la mettrais peut-être un peu moins sale. S'ils étaient juste un peu moins.
Vu l'heure à laquelle je me lève, c'est pas garanti qu'on se croise un jour. Quand je la vois la vie de rêve, qu'est-ce que je fais? Bah moi j'en fais le tour. Toujours moins de réponses que de questions. Même si depuis Alpha ça va mieux, merci. Me demande pas mon avis sur ta chanson. J'aurais même pas écrite à mon pire ennemi. Quand je m'ennuie, je traîne sur les réseaux. Je lis les commentaires haineux et je me meurs. Il vient tellement toujours du genre de blaireaux qui sont là à filmer quand y'a bagarre. Une ceinture Gucci et une de judo. Le premier coup c'est toujours ça de donner. Merci YouTube pour les tutos. Comme ça j'ai plus jamais à leur parler.
Quand je me mets l'anesthésie générale, c'est sans soda et sans glaçon. Je me la mettrais peut-être un peu moins sale. S'ils étaient juste un peu moins cons. Je me sens si seul au sol en général. Depuis le CP dans le fond. je le remettrais peut-être un peu moins sale. S'ils étaient juste un peu moins,
tant que ça paye les cigarettes, je retournerai pas dans la variété à papy. Je m'en bats les couilles de ce qui s'achète. Qu'est-ce que je ferais d'une Lambo dans Paris? Demande à Lola ce qu'elle en pense. Si c'est ok pour elle, pour moi c'est réussi. Big up à tous ceux qui me dansent. Et big up à ceux qui me détestent aussi.
Quand je me mets l'anesthésie générale, c'est sans soda et sans glaçon. Je me la mettrais peut-être un peu moins sale. S'ils étaient juste un peu moins cons. Je me sens si seul ou seul en général. Depuis le CP dans le fond, je me la mettrais peut-être un peu moins sale. S'ils étaient juste un peu moins cons. Hey, hey. S'ils étaient juste un peu moins cons. Et tant mieux si on est encore quelques-uns à rêver plus souvent Berlin que Berlin. Les autres, je vais pas leur faire un dessin. Les larmes qu'on retient pour moi, c'est routine. T'as fait la queue pour une nouvelle paire de baskets. Qui t'a mangé des pâtes pour deux mois. Le prénom de ta fille vient d'une autre planète. Pas grand monde te comprend autour de toi. Et même après qu'elle t'ait ghosté, tu renverras quelques bouquets de fleurs. Si pour toi l'automne c'est l'été, c'est qu'on voit les mêmes couleurs. Quand je me mets l'anesthésie générale, c'est sans soda et sans glaçon. Je me la mettrais peut-être un peu moins sale. Si c'était juste un peu moins con. Je me sens si seul ou seul en général. Depuis le CP dans le fond, je me la mettrais peut-être un peu moins sale. Si c'était juste un peu moins. Quand je me mets l'anesthésie générale, je me la mettrais peut-être un peu moins sale. Je me sens si seul au sol en général. Depuis le CP dans le fond, je me la mettrai peut-être un peu moins seul. Quand ils seront un peu moins cons.
Merci.
Sans soda et sans glaçon. C'est signé Chaton dans le NRV, premier titre en live, issu de son nouvel album Brune Platine, sorti en digital sur un nouveau label, Le Contenu. Sorti en digital, juste en digital.
Bonjour.
Oui. Chaton.
Bonsoir.
Miaou.
Non, il y a une sortie physique, mais en fait, on a fait une série numérotée. Tu sais, moi, j'aime bien. En fait, je suis un peu collectionneur et du coup, je trouvais que ça faisait sens pour le vinyle et le CD de faire un vrai objet qui est en peu d'exemplaires. Donc, on a un tirage unique et qui est numéroté et qui sera disponible sur la tournée.
D'accord. Ah, sur la tournée, d'accord. Sur la tournée, vous serez seul sur la scène?
Oui, je suis toujours seul sur la scène.
Oui, oui. Et puis, il a tourné partout. Il a tourné. Il y avait le Asian Simeo Tour il y a quelques années, c'est ça?
Oui, c'était fait pour le précédent
toute
projet.
L'Asie, tout seul sur scène.
Et là, je l'ai refait là, en mars. Je suis allé. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Vietnam, Laos, Indonésie encore, ouais. Ouais, j'adore.
Seul sur scène.
Ouais, toujours seul sur scène.
Et ça réagit comment, un public asiatique, aux chansons de Chaton?
Bah, globalement, quand tu joues à l'international, t'es super exotique, en fait.
Ouais.
Donc, tu sais, nul n'est prophète en son pays, quoi. Donc, quand t'arrives dans un autre pays, quel qu'il soit, alors en Asie, moi, j'ai beaucoup joué en Asie, donc je connais l'effet là-bas, mais déjà, ils sont persuadés que t'es une immense star dans ton pays pour pouvoir être là.
Ne pas les démentir.
Big in Japan.
Donc,
ça
merci
marche toujours.
De taire toute possible.
Fiaménard, bon, je vous présente donc Chaton. Fiaménard, vous connaissiez déjà l'un l'autre? Non, pas du tout, avant de commencer. Fiaménard, vous êtes, bon, on va parler de ce parcours, hein, performeuse, metteuse en scène, jongleuse internationale depuis pas mal d'années. Vous vérifiez ce que vient de dire Chaton, c'est-à-dire quand vous produisez à l'international, on croit que vous êtes l'immense star en France, ce que vous êtes dans votre domaine, en effet. Vous tournez partout, d'ailleurs?
On tourne partout, ça dépend des pièces, mais je crois qu'on peut se glorifier d'avoir joué dans une bonne, pas loin de 70 pays différents.
Il y a des pièces interdites dans certains pays à cause de la nudité?
Ou à cause de la nudité, ou ouais. Des choses comme ça. Ouais. En fait, il y a des pays où maintenant je ne peux plus aller. Par exemple, le Yémen, des endroits où je suis allé jouer, des endroits qui étaient fantastiques, et aujourd'hui je pense que ce serait difficile. Mais non, c'est vrai, c'est rigolo parce que l'Indonésie, pour moi, c'est un des endroits les plus incroyables artistiquement. Alors, je sais pas si musicalement, quand on arrive là-bas, mais c'est un endroit tellement puissant au niveau de l'imaginaire que moi, à chaque fois, je suis fasciné. En fait, je crois que ce qui se passe, c'est quand on est en effet, il y a un côté très exotique et en même temps, pour nous, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on est en train d'observer la salle, de savoir finalement, est-ce qu'on se comprend
Ouais, bah, d'autant plus que moi, je chante beaucoup et que en français.
Et en français.
Donc, c'est-à-dire que la plupart des gens ne comprennent pas ce que je dis. Mais comme je fais un peu des boucles, des choses comme ça, et des choses un peu visuelles, je pense que ça participe à... Mais je pense que c'est assez vrai ce que vous dites. Moi, je pense que je regarde autant la salle qu'ils me regardent, quoi. Je suis autant fasciné par eux que par moi, je pense.
Pourquoi vous avez changé de label? Avec, après possible, qui avait été quand même.
J'ai pas changé de label, en fait. C'est le même label, sauf qu'il y avait une distribution via Sony, qui n'existe plus, là. D'accord. Mais c'est toujours le contenu, c'est
donc
toujours mon label.
D'accord. Donc vous ne vous êtes fâché avec personne.
Non, je bouge.
Tout va bien.
Sais, ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans, on se fâche
parce
pas,
que vous
à mon âge.
Vous avez des fois eu des mots pas très tendres pour l'industrie du disque.
Ben oui.
On s'est posé la question, nous.
Ouais. Oui, mais c'est un peu mes meilleurs ennemis, l'industrie du disque. On déjeune ensemble et on s'insulte le même jour.
Vous avez, on en parlera tout à l'heure hein, sur ce parcours, mais vous avez d'abord eu une carrière en votre nom, enfin même si les noms étaient différents, et puis pendant 10 ans vous n'avez pas fait de disque, mais vous avez travaillé pour les autres, et puis ça allait de Jennifer et Yannick Noah, en passant par Mel Bent, en passant par Pomme. On fait encore appel à vous aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter cette dimension-là, chaton?
Là je suis en pause de ça.
D'accord.
Parce que je me concentre sur ce projet-là, que j'ai la chance qu'ils vivent bien, que je tourne énormément, etc. Donc là, depuis un an et demi, 2 ans, et puis pour encore un petit moment, je n'écris pas pour les autres, mais j'ai encore, oui, bien sûr, des gens qui m'appellent.
Des gens qui vous appellent. Moi, je me demandais, est-ce que ça a changé le genre de gens qui vous appellent depuis le succès de Possible, votre précédent album? Parce qu'avant, bon, c'était un peu la variété française classique, Jennifer, Yannick Noah, etc. Là, depuis le son, quand même, qui est très original.
On en parlera, ce son du dub avec l'autotune.
Voilà,
ouais.
de ce dub avec l'autotune. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui n'étaient pas dans votre entourage habituel, professionnel, qui font appel à vous aujourd'hui?
Absolument, absolument. Il y a vraiment cette autre scène que moi je connaissais moins, enfin que je connaissais d'avant, la scène plus indépendante, en fait, ouais, alternative, qui commence à venir à moi pour ça. Plus pour de la production, parce qu'en fait, en général, dans l'indé, les gens écrivent leurs propres chansons. On remarque ça. Mm-hmm. Le côté interprète existe vachement plus dans la variété. D'ailleurs, il se perd dans la variété également. Mais oui, il y a plein de gens qui m'appellent que je ne connaissais pas avant, en effet.
Pour de la production.
Ouais, pour de la production.
Et de la réalisation de disques.
Ouais.
Ce que vous faisiez aussi avant.
Je faisais,
pour les autres. Alors, Pia Ménard, tout à l'heure, on va parler de Maison Mère, partie 1, Contes immoraux, de ce spectacle en forme de Parthénon. On reviendra sur la scénographie, sur la puissance que vous développez sur scène, toute seule, en guerrière, pendant 1 heure. Mais d'abord, on pourrait resituer vos propres spectacles dans les années 90 pour vous présenter à Chaton. Des spectacles qui ont participé à votre reconnaissance. Vous jongliez avec quoi au départ? Par exemple, des glaçons, pour qu'on puisse repérer et remettre en situation ce qui était en lien avec votre propre transition.
Bon, déjà les premiers objets, c'était les vrais objets reconnus de jongleurs, des balles qui rebondissent, des massues, des cerceaux. Et puis à un moment, comme tout coming out, on passe par quelque chose de très radical. Hein. Alors on prend des cactus, on prend des vitres, des choses qui coupent, des tôles, des pneus de camion qu'on peut pas soulever. Finalement, on se confronte un peu à l'interdit. Et puis en effet, on arrive à la glace, PPP.
PPP, c'était le titre du spectacle.
Ouais, c'était le titre du spectacle. C'était quand même, finalement, c'est la pièce fondatrice pour moi d'un regard où d'un seul coup, je ne travaille plus à la présentation d'une matière virtuose, mais c'est la matière en elle-même qui va complètement nous rendre une histoire, quelque chose d'assez folle qu'on va vivre devant nous. C'est que on sait que c'est perdu. On sait que c'est perdu d'avance.
Oui, parce que travailler avec des glaçons, c'est finir avec de l'eau.
Ça finit ou on tombe, ou ça casse, ou ça fait mal, ou ça fait froid. Et puis c'est surtout que d'un seul coup, ça permet au spectateur de se sentir et de se mettre à la place de l'acteur. Et je crois que c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est la base où d'un seul coup on passe de la démonstration à l'empathie, où on passe d'un seul coup de cette position. On a notre propre expérience et notre propre expérience sert de dialogue, sert à être cet endroit où on va pouvoir se raconter une histoire et non plus simplement observer, lire une histoire.
Vous aviez déjà travaillé votre transition à l'époque, pendant PPP, ou c'était...
C'est la pièce du coming out, hein. Ça correspond au même endroit, c'est-à-dire au moment où les premières de PPP correspondent à ma première prise d'hormones. Pendant 10 ans, j'ai joué cette pièce-là, et ça a accompagné la transformation de mon corps. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la pièce. Il n'y a que mon corps qui a changé, et la glace aussi.
La pièce, vous la continuez encore? Vous la performez?
Non, je l'ai arrêtée il y a 1 an et demi.
Pour quelle raison?
Physiquement, c'est un enfer.
Bah, des pneus de camion, on imagine, non?
Non, c'était la glace.
Ah, c'était que la glace.
C'était la glace, mais en fait, le travail que ça demande, c'est un travail carrément monastique. Il faut s'isoler, il faut se préparer très très longtemps, il faut une hygiène de vie que j'arrive pas à tenir.
Pourtant, oui, Chaton.
Vous étiez seul en scène avec la glace?
Alors, j'étais seul en scène. Et c'est vrai que c'est... Mais de toute façon, pour un endroit très particulier de l'empathie, il faut mieux être seul en scène. Mmh. Parce que d'un seul coup, on n'a pas d'échappatoire. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi pour ça que j'aime ce solo. C'est cette possibilité sans arrêt d'amener le spectateur à être dans mon corps. Être lui sur cette scène et non pas moi en train de faire quelque chose. Donc c'est vrai que dans la glace, la grosse difficulté, c'est de se préparer, résister au froid.
C'est une pièce dangereuse aussi.
C'est une pièce dangereuse.
Parce que les glaçons
bien sûr, les glaçons tombaient et on ne savait pas quand. Donc j'étais quand même en dessous. Ça mettait une position un peu particulière pour le spectateur. Aussi inconfortable pour mes proches. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi au bout d'un moment, vous posez la question, prendre des risques, ok, mais jusqu'à quand et pour quelles raisons? Tant que la pièce avait une vraie valeur pour moi encore, au moment où finalement mon corps est devenu celui d'une femme, il passait dans un autre chemin. Il n'était plus celui de la question de l'identité, mais finalement la question, ok, être une femme dans la société patriarcale, ok, alors c'est encore un autre sujet.
Et c'est d'ailleurs le sujet de
Saison Sèche.
De Saison Sèche, qui était une autre pièce. Aujourd'hui, vous reprenez une création de 2017, Contes Immoraux, partie 1, Maison Mère, que vous aviez créée à la Documenta de Cassel. Quel était le contexte à l'époque?
Le contexte était assez surprenant puisque c'est une commande déjà, ouais. C'est la Documenta qui
pour un grand rendez-vous de l'art contemporain. Ouais.
La question était simple, deux commissaires d'exposition, Adam Sismic et Paul B. Preciado, avec une thématique, apprendre d'Athènes pour un parlement des corps. Ce que je veux dire, c'est que les deux thèmes comme ça paraissent assez étranges. Et une fois que vous êtes à Athènes, petite anecdote, la première fois où je vais faire un repérage justement pour la Documenta, c'est le moment où Yann Favre fait sa fameuse conférence de presse au Festival d'Athènes et d'Épidore et qu'il a décidé de programmer que des artistes belges ou flamands.
Alors même qu'il est en Grèce.
Et je me rappelle très très bien de ce déclic en me disant « Mais si j'étais une artiste grecque, je ferais péter le Parthénon. » C'est parti comme ça en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment des éléments qui se déclenchent comme ça. Et au même titre que arriver à Cassel, de me rendre compte que Cassel, c'est la ville des frères Grimm, du pourquoi cette quinquennale, quand même, qui a été créée sur un endroit particulier. Il faut se souvenir que Cassel est une des premières villes à avoir élu un maire nazi en 1933. Que cet endroit-là a gardé finalement ce berceau un peu de, quand même, d'un passé très lourd. Et en même temps, on décide de recréer par l'art une rééducation de la société, une réappropriation de la pensée, une réappropriation de l'art dans cet endroit-là. Donc ça veut dire que pour moi, ce sont que des thèmes qui sont venus s'entrechoquer. Bien sûr, s'entrechoquent en même temps tous ces éléments qui sont réchauffement climatique, crise migratoire. Tout ça fait que cet énorme cocktail mixé d'un seul coup sort.
Ça explose sur scène et vous allez faire péter le Parthénon sur la scène, on en parlera tout à l'heure. Alors pour faire plus amplement connaissance avec vous deux, on vous a demandé des sons qui vous ont construit. Ça commence par la télé pour vous, Fiaménard.
C'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt.
Qu'est-ce que c'est que cette émission?
Vous en rappelez pas? Vive la crise, cette Yves émission.
Montand.
Yves Montand, quand même super paternaliste, qui nous dit, il faut accepter le fameux Tina. Il faut accepter le fameux « There is no alternative » de Margaret Thatcher. C'était quand même la plus grande désillusion de la gauche. Et je pense que aujourd'hui on nous parle toujours de crise. Je suis né avec ça. J'avais 10-12 ans.
Et déjà, vous êtes immobilisé sur ces questions?
J'étais mobilisé sur ces questions tout simplement parce que venant d'une famille ouvrière, l'arrivée de François Mitterrand en 81 et l'arrivée de la gauche était un espoir incroyable. Et que cette première histoire, on la vivait comme finalement peut-être une sorte de moment où la société ouvrière, la société qui était moins représentée, allait enfin pouvoir s'exprimer. Et puis là, c'est le retour de bâton, c'est phénoménal. C'est-à-dire que là, on nous fait une séance de pédagogie télévisuelle pour expliquer à la société que nous vivons au-dessus de nos moyens, et ainsi de suite. Et ce qui est génial...
Par quelqu'un qui a été une figure du Parti communiste.
Par quelqu'un qui a été une figure. Donc c'était aussi là où on voyait à quel point tout ça était un énorme phénomène qui se liait. Et puis, je crois aussi, c'est que le mot « crise », j'ai toujours entendu. Donc d'un seul coup, on se dit, mais une crise qui dure aussi longtemps, qu'est-ce que c'est, quoi?
C'est plus une crise.
Non, c'est plus une crise.
Un jeu de cartes pour vous, chaton.
Ouverture à 6 millions. Tapez. 5 millions. Tapez. 6 millions pour suivre.
Relance.
Relance. 12 millions. Tête à tête.
40 500 000 dollars. Tapis.
Relance à tapis.
Vous vouliez un son de poker, on est allé le chercher chez ouais. James Bond. Chaton.
C'est beau, ça, ça joue dans des limites dans lesquelles je ne joue pas. Hein, 40 millions. Là,
mais vous jouez un petit peu quand même.
Ouais, j'aime bien, mais je suis très joueur en fait, de façon générale. En fait, j'ai 10 sons de cartes, mais ça aurait pu être, je sais pas, deux boules qui s'entrechoquent à la pétanque, ça aurait pu être n'importe quoi. Je suis ultra joueur, comme tous les enfants hyperactifs un peu.
Oui, parce que vous avez été hyperactif, j'ai appris ça, oui. Ouais. Vous entrez au conservatoire à 6 ans, vous n'avez pas le droit de toucher un instrument avant 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
C'était quoi, c'est comme ça que ça se passe.
Ah, c'est comme ça que ça se passe.
Bah, l'ancienne, et au frère.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le droit de toucher un instrument.
Et puisque vous étiez dans le monde de la musique, vous jouiez au poker avec Bruel?
Ah non, j'ai rencontré via la musique, mais jamais à une table de poker. Vraiment, ouais. Christophe, en revanche, j'ai joué avec lui au poker.
Vous l'avez gagné aussi.
Oui, je lui ai fait. Non, mais je l'ai raconté dans une autre émission chez Didier Varro.
Ouais.
Je lui ai monté un bluff complètement incroyable, Christophe. Du coup, je le own, comme on dit au poker. Là. Il ne peut plus jouer contre moi. Je lui ai monté un bluff. Et je lui ai montré les cartes en plus. Tu sais, quand tu fais un bluff et qu'à la fin, tu claques ton 3
jusqu'à
et 2.
La fin.
Et là, du coup, il ne me parle plus depuis.
Facile.
Pour le 1er avril, qu'est-ce que vous avez inventé cette année?
Ah, j'ai fait une blague au fer. Là. J'aurais fait
le fer, qu'est-ce que c'est?
Le fer, c'est un dispositif d'aide un peu aux artistes en développement. Et du coup, dont j'étais lauréat cette année. Et il y a une espèce de bourse, en fait, dont on bénéficie. Et en fait, je leur ai envoyé un mail super tôt en leur demandant si une partie de la bourse pouvait servir à payer ma caution, parce que j'étais en garde à vue pour une histoire de stupéfiant. Parce que je fais beaucoup de poissons d'avril, j'adore ça.
Parce qu'ils n'étaient pas en garde à vue, bien sûr, pour une histoire de stupéfiant.
Ouais. Mais, et en fait, ça, donc il y a une administratrice qui est adorable et qui est très impliquée. Et elle y a cru, quoi. Et du coup, je les ai imaginés en sueur, là, au bout du fil et tout. Mais c'était très drôle, ouais. C'était très drôle, cette histoire. J'aime bien faire des blagues.
Le bluff, c'est fini. Tout de suite, on part en live.
Rendez-vous.
Il y retourne derrière son micro, Chaton, pour deux autres titres dans le nouveau rendez-vous. Et le prochain titre, vous avez choisi, Chaton, de commencer par une reprise.
Ouais, je m'attaque à ce monument de Jacques Brel, qui est la chanson des vieux amants, qui est juste la plus belle chanson jamais écrite, je pense, en termes de texte.
On vous écoute.
Bien sûr, nous sûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats de vieilles tempêtes. Hey. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas là le pire piège que de vivre en paix pour tes amants? Bien sûr tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères, on laisse moins faire le fil de l'eau, on se méfie plus du hasard. Mais c'est toujours là, tendre cœur. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Hey. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, Lola, tu sais, je t'aime, je t'aime. Le jour où j'aurai plus de larmes, tant pis, je paierai mes habits. Je savais que Dieu était une femme, maintenant je sais que le diable aussi. Tu m'as brisé le cœur en deux, ouais. Putain de nouvelle technologie. Je te vois partout et t'as l'air mieux, ouais. Depuis que t'es parti avec lui. Du coup je suis pas très concentré, non, sur leur truc de faire de l'oseille. Sony a encore appelé, ouais. Ils veulent un truc un peu pareil. Sauf que je l'ai déjà fait toute ma vie pour des connasses qu'ils valaient pas. Puis je crois qu'ils me donnent un peu le tournis, ce la mineur fado sol. Puis Goldman l'a fait 500 fois, non. Ah ouais, pardon, mauvaise attaque. On avait dit pas les prénoms, non. Et ni les mamans, ni Jean-Jacques. Mais ce sera parfait. Une soirée vodka pyjama, j'suis pas frais. Et j'ai juste envie de toi. Ce sera parfait. Si la lune se lève avec moi, je suis pas prêt à me remettre de toi. Je me fais pas chier sur les accords. De toute façon, si tu ne reviens pas, prochain album, je serai mort. Ouais. Donc celui-là, on en vendra. Puis tout le monde s'en contrefou, non. Des chanteurs, y'en a des milliards. Un classique, c'est déjà beaucoup, ouais. Deux à la suite, ce serait bizarre. Puis je sais pas faire de baiser les gens. Faut que je m'arrête avant qu'ils avalent. Adieu bière chaude, adieu sol collant. Adieu putain de festival. Adieu bénévole pas étoilé. Adieu madra et taboulet. Je donnerai plus jamais de concert ailleurs qu'en FaceTime pour mon frère. Et ce sera parfait. Une soirée vodka pyjama, j'suis pas frais. Et j'ai juste envie de toi. Ce sera parfait. Si la lune se lève avec moi, de toute façon j'suis pas prêt à me remettre de toi. De toute façon j'suis pas prêt à me remettre de toi. J'serai le premier chanteur pas connu, ouais, à annoncer fin de carrière. Comme ça personne sera déçu, et comme ça personne sera fier. Putain, nouvelle technologie, ouais. Je te vois partout, je vous vois vous deux. Ils ont vite choisi nos amis. Je regrette les coups payés pour eux. Le jour où j'aurai plus de larmes, tant pis, je paierai mes habits. J'avais que Dieu était une femme, maintenant je sais que le diable aussi. Et je te souhaite même pas bonne honte, t'as pas besoin de moi pour être en or. Je ne te souhaite même pas bonne honte,
Il y a des chances que je t'aime encore et ce sera parfait. Une soirée vodka pyjama, je suis pas frais. Et j'ai juste envie de toi, ce sera parfait. Si la lune se lève avec moi, de toute façon je suis pas prêt, je suis pas prêt à me remettre de toi.
Merci.
Parfait, avec Chaton, dans le nouveau rendez-vous en live. Chaton qui va partir en tournée, peut-être un peu de date en Chine, je crois, et puis surtout une tournée en France cet automne. Lyon, le 3 octobre, Marseille, Tourcoing, Bruxelles, Strasbourg, Rennes, Senon et la Gaîté Lyrique à Paris. Ce sera le 28 novembre. La prise de son, c'est Ludovic Asselot, Fabrice Desmas, Julien Dumont, et à la vidéo, parce qu'il y a les lives de Chaton qui sont à voir sur les sites internet, c'est Patrick Antena.
Comment ça va, Chaton? Parce qu'on parle toujours de vous, dépression, dépressif, manifestement pas. Quelques agressions aussi dans les chansons. Comment vous portez?
Non, bah en fait c'est toujours l'histoire des clowns, tu sais.
Ouais.
C'est-à-dire que si tu me vois là, je vais, enfin vous savez, on va se vous voyez. Vous m'avez vu avant l'antenne, vous me verrez après. Je suis toujours très très enjoué quand je suis en société. Et puis après la nuit tombe, tu connais quoi. Donc.
Mais qu'est-ce qui nourrit ce désenchantement quand même qu'on entend dans vos textes? Il se nourrit comment?
Mais je crois que c'est un truc un peu générationnel globalement. Tu sais quand je vous entendais dire que depuis qu'on est né, on vit dans une espèce d'atmosphère de crise. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça. Je crois que c'est un petit peu, l'air est un petit peu pesant. Je crois pas qu'on vive des glorieuses là, tu vois. Donc déjà il y a ça. Et puis je pense qu'il y a mon extrême sensibilité qui fait que je percute. Enfin, les choses me percutent 10 fois plus fort qu'elles percutent quelqu'un d'autre qui est moins sensible. Et du coup, ben, si tu veux, quand il y a un truc qui est triste pour moi, mais aussi pour l'ensemble du groupe, je le prends pleine face, je le porte sur mon dos et ça me tire à terre comme ça, etc. Quoi.
Chaton, on va faire une piqûre de rappel. Chaton, c'était ça, ben, il y a 2 ans.
Léopard de la fight, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout.
Donc un style très particulier pour ce premier album sous le nom de Chaton. Mais avant Chaton, eh bien, il y avait quelqu'un d'autre, il s'appelait Siméo, c'était quand même vous. Et ça donnait ça.
Je sais pas vraiment ce qui nous rassemble, car c'est fou ce que jour en jour je trouve que tu te ressembles. Toujours plus critique, de moins en moins budique. Tu te ressembles de plus en plus et moi, ça me pique.
Ça c'était en 2003, on parlait de transition tout à l'heure avec Fiaménard, mais vous aussi il y a une transition dans cette voix.
Mais tu remarqueras que en fait j'ai mué à l'inverse, hein. Je suis le Benjamin Button de la voix, parce que j'avais une voix très très comme ça là, quand j'avais 17 ans, parce que ça j'ai 18 ans.
Oui, c'est ça.
Tu vois, ouais. Et en fait, mais c'est, je crois que c'est surtout qu'on apprend à s'accepter avec le temps. Et tu vois, là, j'avais 18 ans, j'ai plein de tendresse pour ça. Hein, je peux pas l'écouter, ça m'y laisse les poils.
Bien sûr, ouais.
Mais il y a un truc où tu sens que je me cherche, quoi. Tu vois, je suis un gamin qui se cherche, qui comprend pas le monde le comprend pas. Il y a une espèce de. Et puis petit à petit, t'avances. Et puis un jour, tu vois, déjà, poésie, là, quand j'écoute, là, je me reconnais plus, tu vois. Et voilà, on finit par s'accepter. On finit par accepter qu'on est singulier, qu'on n'est pas parfait, que tout le monde ne peut pas nous aimer. Et à mesure de cette acceptation, je pense qu'on devient de plus en plus sincère et de plus en plus nu, de plus en plus singulier, et que ça donne quelque chose à mon sens, plus abouti artistiquement.
Alors ça peut paraître paradoxal, et pour moi ça ne l'est pas, mais cette nudité, cette mise à nu passe par l'autotune.
Ouais,
quelque chose qui est souvent discrédité. Mais qui vous permet quoi en fait, Chaton?
Mais par qui c'est discrédité l'autotune?
On entend beaucoup de critiques. On a l'impression que c'est un peu un effet, un peu de cosmétique
sur des gens qui ne savent
pas chanter, par exemple.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de truc où on confond en fait les gens qui critiquent une forme de variété exacerbée, genre qui est très très simple dans le propos, etc., et qui critiquent ça, et qui du coup est associé à l'autotune, parce qu'il y a de l'autotune partout en ce moment. Est-ce que c'est pas plutôt ça? Parce que
même chez Benjamin Biolay, d'ailleurs, c'était magnifique.
Mais oui, Benjamin Biolay, c'était très bien ce qu'il avait fait.
Vous, ça vous permet quoi? Comment c'est arrivé dans votre écriture?
Il y a deux choses en fait. L'autotune. Moi, je l'ai utilisé pendant des années pour corriger les voix des chanteuses.
Ouais. C'est comme chanteurs. Ça au départ.
Oui, c'est ça, c'est un correcteur de voix. C'est-à-dire tout le monde peut chanter, voilà. Juste, même moi.
Voilà, mais moi j'ai des sessions, je vais pas rouvrir mes sessions, mais j'ai des sessions où parfois on prenait genre 70 fois la prise d'une phrase, quoi, et après il y avait l'autotune, il y avait le Melodyne, enfin il y a deux outils techniques, on n'est pas dans une émission technique, je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, on travaille avec ces outils, et puis un jour, en fait, j'ai compris, en écoutant des gens comme Booba, comme PNL, comme les gens qui me bercent, les contemporains en tout cas qui me bercent, que en fait, il y avait eu une transition dans le rap où avant c'était les chanteuses qui chantaient les refrains et maintenant c'était d'autres chanteuses en externe qui venaient chanter les refrains. Ouais. Souvent, les rappeurs y rappaient et puis ils se sont mis à chanter leurs propres refrains. Et en fait, je me suis demandé pourquoi tout d'un coup ils avaient osé. Et donc j'ai allumé ces outils-là et je me suis rendu compte que c'est il y a deux choses. C'est que déjà ça permet, c'est un genre de filet en fait. Donc ouais. Tu te sens déjà vachement plus en confiance. Et il y a autre chose. C'est que c'est un hyper bon copilote de composition mélodique.
Ça permet d'imaginer des choses à laquelle on n'avait pas pensé.
Voilà, moi ouais. Qui suis un enfant du solfège, la musique pour moi elle a un sens, tu vois. Elle est relativement logique, assez mathématique, ce qui fait ben, c'est pour ça que Beethoven pouvait écrire sourd, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est assez mathématique, sauf que là l'autotune il te dit attends mon coco, t'es habitué à aller en do là après être allé en si, ok ben moi je te propose quatre autres trucs, donc choisis mon pote. Et là tu te retrouves dans un champ des possibles qui est waouh, de ouf.
Moi, je me demandais aussi si ça n'avait pas quelque chose à voir avec le dub, parce que quand même dans la musique reggae, dans ragamuffin, dans le dub, on utilise beaucoup d'effets. Alors, c'est peut-être pas complètement l'autotune, mais les voix sont quand même aussi très très trafiquées.
Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on dit pas, en effet, moi, il y a l'autotune, il y a aussi toute une somme de délais, de réverb, etc., ce qui fait un peu ce truc nébuleux. Et en effet, ça vient de ma culture du sound system, du dub, et évidemment avec lequel j'ai grandi. Tu sais, mes premiers concerts, c'était Black Uhuru, Israel Vibration, tout ça, quoi.
Sur scène, il n'y a pas de filet hein, quand on est jongleuse. La Ménard. Il n'y a pas d'auto-tune hein, sur la scène.
Non, pas du tout. Il y a la petite mort, il y a des termes un peu particuliers.
La petite mort, c'est quoi?
On dit ça en jonglerie, c'est quand l'objet tombe. C'est beau, étonnant, hein, parce ouais, que c'est quand même une relation très sexuelle. Hein. Ouais. Mais en effet, c'est ça, c'est-à-dire le moment où, de toute façon, ça va arriver. Alors vous pouvez toujours faire tout ce que vous voulez, ça arrivera. Après, il y a le choix de se dire est-ce qu'on l'accepte et qu'est-ce qu'on en fait.
C'est ce que vous avez fait. C'est-à-dire ouais, que la chute, c'est quelque chose à laquelle vous avez pu travailler, alors même que le jonglage, c'est maintenir les choses en suspens.
Oui, mais parce que avant moi, j'avais déjà des précurseurs qui étaient allés dans ce sens-là, c'est-à-dire qui avaient déculpabilisé l'erreur et ramené plutôt le côté de l'humanité. Moi, c'est vrai que c'était l'endroit où ça m'intéressait encore plus, c'est-à-dire de dire ma culpabilité, qu'est-ce que j'en fais ? Notamment par rapport à la question de l'identité, c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure, le jonglage est devenu aussi une manière de penser autre. Le jonglage, vous le voyez plus aujourd'hui sur scène dans mon travail.
Mais ah non,
par contre, la construction elle-même est une vraie construction de jonglerie.
De jonglerie. On va y revenir dans quelques instants. Juste une question par rapport à votre famille. J'ai lu quelque chose qui m'a vraiment intéressé et intrigué par rapport à votre père, qui serait l'inventeur des feux de circulation qui parlent aux aveugles. Et je me suis dit, est-ce que c'est encore une légende urbaine qu'il a pu inventer? Ou est-ce que c'est vrai, chaton?
Non, en fait, il est dealer et qu'on ne peut pas raconter des trucs comme ça. T'imagines, papa, je suis désolé. Je viens de te snitch là en plein.
Non, c'est vrai, donc c'est l'inventeur de feux de circulation qui parle aux aveugles.
Tout à fait.
Ah oui, donc le son trafiqué, c'est quelque chose qui est inscrit dans la famille, quoi.
Ouais, sauf que, alors je vais vous raconter un truc marrant, c'est qu'à l'époque, dans les fin 90, je dirais, les feux de la circulation, c'était pas un son comme c'est aujourd'hui, c'était vraiment des voix. Aujourd'hui, c'est des voix de synthèse, mais à l'époque, c'était des vraies voix. Et donc, le feu rouge, c'était ma mère ou mon père, et le feu vert, ma mère.
C'était la question que j'avais apprise. C'était la question que j'avais apprise. Ouais. Qui fait la voix?
Et, ouais. et donc, il y avait mon père et ma mère. Donc, moi, je les entendais de temps en temps. Et figure-toi que j'en ai fait quelques-uns. Donc, à Paris, il y a quelques feux. Alors, je sais pas s'ils existent encore, où on m'entend au feu rouge si on clique sur le truc.
Tu peux nous donner les noms des rues, des avenues? Moi, je vais aller.
C'est quand même assez génial. C'est formidable.
Et donc, après, c'est devenu des voix de synthèse. Et mes frères ont repris la boutique. Et ils font en fait, ils sont dans l'accessibilité. Mais mon père a toujours été dans l'accessibilité pour les personnes handicapées. Et ma mère également, parce qu'ils ont travaillé ensemble toute leur vie et vécu ensemble, big up, toute leur vie, 50 ans, 3 enfants, t'as quoi, bravo.
Et vous vous souvenez du texte?
Oui. Le feu piéton est rouge, avenue Henri Barbuse.
Ben voilà.
Juste pour finir, des thèmes, il y a des thèmes qui reviennent album après album, hein, ce côté désenchanté que vous racontez. Moi, je me demandais si la musique avait vraiment, finalement, une vertu thérapeutique en ce qui vous concernait.
En fait, ça me sauve, ça c'est certain, ça me sauve. Je sais pas si ça me soigne en revanche. Donc oui, ça me sauve parce que c'est mon exutoire, c'est le seul endroit où, voilà, je peux jeter tout ce que je souris toute la journée aux autres, bah, je peux le jeter à la poubelle à ce moment-là. En revanche, je suis pas sûr que ça m'ait soigné ou que ça me soigne. Ça me permet de continuer à être en vie, mais je suis pas sûr que ça m'améliore vraiment.
Le deuxième album, donc, est disponible.
Brune Platine.
Brune Platine.
Disponible déjà en digital et bientôt, donc, cet automne, en série limitée, vinyle et CD.
Ouais, je veux juste revenir sur cette histoire que le texte de Je danse dont vous parliez tout à l'heure.
De Je danse pour Jennifer, qui est un très beau texte.
Parce que les thèmes, ça revient, je crois qu'on creuse un sillon, tu vois, tout le monde, depuis toujours, et c'est marrant parce qu'en effet, moi, quand j'étais dans la variété, j'essayais de faire de mon mieux et d'être le plus sincère possible. Et en effet, quand j'écoute des trucs comme ça, je suis assez fier d'avoir mis ces graines-là dans la variété.
Et ils ont rien changé quand ils ont pris, c'était vraiment vos paroles, ils ont rien changé pour Jennifer.
Il n'y a pas eu un mot de changé. J'ai un énorme respect pour ça et pour eux, pour l'équipe qui a bossé dessus, parce que c'était, ils ont rien changé.
Parfait. Vous restez avec nous, chaton. On va parler jonglage, ou presque, dans quelques instants. Ministry, un extrait de Lux Prima, l'album de Karen O et de Danger Mouse dans le NRV.
France Inter. Nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
plateau carton et scotch avec vous, Fia Ménard, jongleuse, danseuse, performeuse, metteuse en scène. Un parcours qui commence au début des années 90, une reconnaissance internationale avec des pièces engagées, visuellement spectaculaires, qui abordent frontalement des questions de société, dénonciation du patriarcat par exemple, dans Saison Sèche. C'est la dernière que j'ai pu voir. Aujourd'hui, c'est Contes immoraux, partie 1, Maison Mère, c'est le titre. C'est au Théâtre des Amandiers à Nanterre jusqu'à samedi, une pièce de 2017. Sur scène, vous êtes seul sur un plateau recouvert de carton, blouson et mini-jupe en cuir. C'était plutôt pas mal. Godillot, genouillère, une tenue de guerrière avec à la main un crochet qui vous permet de prendre, de soulever les feuilles de carton. Et vous allez pendant plus d'une heure construire une maison au départ. Et puis au fur et à mesure, je vais pas tout révéler, hein, au fur et à mesure, on voit que ça prend la forme du Parthénon, d'un temple énorme, avant qu'une catastrophe s'abatte sur le plateau. Et je n'en dis pas plus. Construction, destruction. Au départ, je lisais une histoire familiale liée à la mort de votre grand-père en 43. Flaménard.
Oui, parce qu'il faut toujours trouver un lien de, ouais, de départ. En fait, c'est une forme d'introspection. Je crois que écrire, c'est sans arrêt essayer de savoir à quel endroit, d'où ça part.
On fait la pièce, mais c'est après qu'elle vous révèle quelque chose.
Complètement,
c'est ça.
Complètement. Ce que je veux dire, c'est que le lien se fait avec le mot plan Marshall que j'ai toujours entendu, qui était en effet, après avoir détruit cette Europe après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu la reconstruire et donc on a trouvé le moyen. On faisait des maisons préfabriquées, on faisait des choses comme ça. Et puis quelque part, c'est un terme qu'on retrouve assez souvent. Et quand j'étais notamment à Athènes, à l'époque où je cherchais sur cette pièce-là, j'étais assez fasciné de voir comment on contraignait le peuple grec. C'était la pleine époque de la mise sous tutelle. Et en même temps, qu'est-ce que je voyais? Je voyais les migrants qui étaient accueillis en Grèce comme nous ne savons et nous ne voulons pas le faire en France. C'est-à-dire avec des endroits où on les logeait, des endroits où on leur donnait à manger, des endroits et à un peuple qui déjà était dépossédé, lui partageait. Et là, j'étais halluciné. Je me disais, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire la solution presque du plan Marshall, c'était de dire, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fournirait? Des maisons en carton pour les Grecs, parce qu'on sait bien, il fait toujours beau en Grèce. Mais non, il pleut aussi.
Ah non, il pleut. Quand il pleut.
Alors, voilà, c'est donc en fait cette idée-là de souvenir finalement que on détruit pour reconstruire. Le plan Marshall, c'était quand même, on faisait des tapis de bombes, et mon grand-père maternel est donc mort sous les bombes américaines, sous un tapis de bombes, et finalement on a reconstruit derrière. Et qui c'est qui a reconstruit? Ben, c'est la société américaine. Et quand on regarde là où on est dans notre histoire, on peut sans arrêt se dire, ah ouais, ok, en fait, comment on va résoudre toutes ces questions que nous avons face à notre société?
Comment vous avez imaginé ce costume de guerrière? Blouson de cuir, mini-jupe en cuir, genouillère.
Alors c'est plus pernicieux que ça, c'est mini-jupe en chambre à air de camion.
Ah oui, d'accord, j'avais pas regardé.
Ouais, c'est assez mais en fait
c'est pas la chose la plus confortable à avoir. Mais pour quelle raison d'ailleurs, une chambre à air de camion?
Parce que c'est super solide. Et puis en fait, c'était aussi de réaliser j'avais décidé de me prendre pour Athéna et que j'allais déplacer mon Parthénon. J'avais envie de changer un peu d'endroit. Il y avait quand même une notion aussi assez importante, c'est que dedans, c'était finalement cette réplique du No Future Punk, qui était ma génération. Ce que je veux dire, c'était vraiment cet endroit-là et ce souvenir que cette société que les punks refusaient, c'est celle qu'on est en train de critiquer aujourd'hui. Et donc, quelque part, je comprends à quel point je suis resté à cet endroit-là. Et quelque part, j'avais envie de dire, voilà, Athéna, que j'allais être sur scène, allait être une Athéna punk d'aujourd'hui, une sorte de déesse qui aurait plutôt cette allure-là, qui aurait un peu le bandeau noir de maquillage, ouais, un peu à la Driss dans Blade Runner. Et de se créer aussi cette espèce de côté Mad Max, un peu.
Ouais. Ah oui, même dans la démarche.
Ah oui.
Dans la façon d'être sur scène, dans la démarche, dans la façon de toiser le public, il y a une sorte de face-à-face, de confrontation. Quel est le plus dur dans cette pièce? Pendant une heure, plus d'une heure, vous êtes seul en scène, en train de monter véritablement une maison. Alors, on dit qu'en carton, ça paraît léger, mais trouver, plier le carton, enfin, c'est quelque chose d'assez physique. Quel est le plus difficile aujourd'hui pour vous, Fia Ménard?
Alors il y a un double.
Je vois sourire.
Non, il y a un double parce que par exemple c'est chaque soir il se passe quelque chose de différent. Donc par exemple hier j'ai dû me battre pendant au moins 20 minutes sur un endroit assez compliqué et je pense que le spectateur est sans arrêt basculé dans l'idée
est-ce que je viens l'aider, est-ce qu'elle va y arriver. Ouais, c'est ça.
Et en fait c'est là aussi le vrai sujet, c'est-à-dire que dedans le plus dur c'est que je sais pas combien de temps va durer ma performance. Je sais que ça pèse 200 kilos. Je sais que je vais devoir bouger cet endroit et réussir à la monter. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que j'arrive au bout. Et puis en même temps, Il y a un côté fascinant, c'est que c'est moi qui tiens le temps et c'est un acte de domination. Alors en tant que femme, d'un seul coup, être dans un rapport de domination, c'est quand même assez intéressant.
Et vous ne vous en privez pas ?
Je ne m'en prive pas et j'invite toutes à ne pas s'en priver. C'est un vrai moment de plaisir. Il faut bien le partager un peu. Alors, d'un seul coup, non, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous savez que vous imposez le temps et que quoi qu'il se passe, la curiosité du spectateur fait qu'il va rester. Mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'il va lutter contre lui-même. Il va lutter pour le fait de dire, bon, elle y va là, elle va la faire sa maison là, parce que là, on commence le scotch. Et puis quand le scotch, il craque, il fait... Oh! Et là, d'un seul coup, il est pris à son propre piège, c'est-à-dire qu'il est curieux, il veut que j'y arrive, en même temps, il aimerait que j'y arrive plus vite, mais en même temps, il s'aperçoit que les matériaux sont pas du tout adaptés, et que quelque part, je suis en train de lui montrer qu'il est en train de vivre une histoire qu'il va emporter avec lui, et que quelque part, même à la fin, c'est encore pire que ça. C'est, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne bouge pas, et le monde est en train de crever.
Sous ses yeux, parce qu'il se passe quelque chose que je ne vais pas décrire pendant la représentation, puisque l'élaboration de la maison n'est pas simplement l'événement de ce spectacle. Oui,
elle peut durer jusqu'à combien de temps la performance, du coup ?
Tu vois, hier soir, elle a duré 1h30 et je suis allé jusqu'à 1h50 parce qu'elle s'est réouverte 3 fois.
D'accord.
Alors après, c'est-à-dire que
ça participe. Vous êtes complètement découragé au bout d'un moment, non ?
Non, parce qu'il y a quelque chose aussi.
Je vais y arriver.
Mais c'est, voilà, c'est-à-dire que il y a cette volonté de dire, de toute façon, je vais y arriver. L'élément, même si on sait que c'est perdu, je vais y arriver. Ça reste.
Et puis en même temps. Vous n'avez jamais envisagé d'abandonner ?
Non, ce qui est...
Elle a payé une fortune pour ça.
Je suis payé une fortune pour ça. Mais c'est surtout qu'en fait, vous sentez l'énergie que dégage le spectateur qui fait que, non, on est là, avec toi. Même si on bouge pas du fauteuil, on est là, on y va, vas-y.
Personne ne s'est jamais levé pour venir vous aider.
Alors, c'est ça un peu le paradoxe, c'est que j'attends toujours ça. Mais au même titre qu'à l'époque de PPP, j'attendais que quelqu'un vienne me sortir de cet enfer en me disant non.
Quand les glaçons lui tombaient sur le plateau. Voilà, ouais. Et vous étiez dessous.
Il y a toujours cette relation très bizarre que nous avons au spectacle vivant. Nous sommes assis, nous avons payé, nous regardons un spectacle, on attend l'objet qu'on a payé. Et finalement, à quel moment on franchit l'espace? Et est-ce qu'on peut franchir? C'est pour ça que la liaison entre spectacle vivant, art visuel, est pour moi un endroit très intéressant. Parce que dans l'art visuel, on a une possibilité complètement particulière. L'artiste, en général, n'est pas forcément là, ou ainsi de suite. Là, ok, je suis présente, mais je suis dans la galère. Comme hier, je sens bien qu'il y a au moins la moitié de la salle qui est prête à se lever pour venir m'aider. Et en même temps... Bon, on est spectateur, on peut pas le faire. C'est aussi cet endroit-là que j'aime questionner. C'est quel moment on va vraiment prendre le pas en disant « Non, allez, ça a trop duré, je m'y mets ».
Juste une question. Donc on est dans la partie 1 qui s'appelle Maison Mère. Il devrait y avoir d'autres parties, j'imagine. Temple Père, j'ai pu lire, et Rencontre Interdite. Temple Père, qu'est-ce qui peut se passer ?
Alors l'idée, c'est qu'en fait, c'est un péplum. Hein.
Ouais.
Ce sont 3 contes. Donc à la fin de Maison Mère, les spectateurs ressortent, ils vont au bar. Hein. Faut bien faire fonctionner le bar du théâtre. Et là, quand ils reviennent, je décide de ne pas me laisser achever. Et je décide de monter une tour de Babel à partir de plaques de placoplâtre, mais sur la méthode d'un château de cartes. C'est-à-dire un château qui monte en équilibre, et c'est une tour. Sauf que là, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de vent. Donc ça veut dire que les plaques ont tendance à s'éroder, que la poussière, parce que c'est du placoplâtre, c'est de la grosse merde. Je finis par monter quelque chose que je ne peux pas vivre, ou je ne peux pas habiter, parce que c'est pollué. C'est ce que nous sommes en train de...
Ah, ben ça, c'est vraiment la métaphore même de ce que nous sommes en
et
train
puis,
de vivre.
Et puis, la dernière, c'est que...
Rencontre interdite.
Rencontre interdite. Donc là, après être allé au bar, on revient encore. Et là, il y a un fil d'Ariane qui vous attend à l'entrée. Et vous suivez ce fil, vous allez traverser un espace. L'espace va vous mener sur cet endroit que vous avez vu, où il y a cette ruine du Parthénon, où il y a cette tour de Babel, sauf que vous êtes dans le brouillard, et vous traversez cet endroit, et là, il y a un personnage vêtu d'une armure de glace, Europe. Je suis Europe à cet endroit-là, et je vous fais une longue logorée sur ce qu'on m'a toujours dit qu'il faudrait de l'Europe. Celle que j'ai entendue de mes grands-parents qui disaient « plus jamais la guerre ». Plus jamais ça, plus jamais la violence, plus jamais cette horreur, plus jamais. Et finalement, de cette envie d'une Europe, à la veille des élections européennes, de ce désir de dire, c'est ça l'Europe, c'est de trouver la paix, le dialogue, la communion, dans un sens de, ok, on est différent, mais on va trouver le moyen d'essayer de se comprendre, et non plus de s'acheter, de se marquer, de se voilà, de se battre les uns les autres. Et donc, c'est vraiment cette idée-là. Les spectateurs vont suivre cet endroit, ils vont traverser les ruines, ils vont pouvoir s'approcher des ruines et voir cette, au fur et à mesure, cette armure de glace fondre et finalement laisser disparaître l'Europe.
Eh bien, voilà. Tout est dit. Comte d'Imoreau, partie 1, Maison Mère, c'est au Théâtre des Amandiers à Nanterre jusqu'à samedi. Merci Fiaménard.
Merci.
Merci Chaton.
Merci beaucoup à vous.
Et bien voilà, le Énervé, première partie, c'est fini. On se retrouve non pas dans 15 minutes comme les autres fois, non, 25 minutes après le journal et après, bien sûr, la campagne européenne. On va se retrouver avec ça.
Il n'y a pas de planète B.
On ne lui fait pas dire l'ONU, la biodiversité et Emmanuel Macron. Remake our planet great again. Le rendez-vous est pris.
Alors à tout de suite.